Bonjour, ici François Nardou, aux Alimons. Par ce beau temps de mars qui évoque les poésies des troubadours, lesquels chantaient lu gentem de Pascu, cur lu riu de la fontana s'esclarsis, si cum farsol el rusignulet el ram, sundus cantar refragne volfet a plano, dreit s'esqueieu lu miu refragno. Au beau temps de Pâques, lorsque le filet d'eau, le ruisseau des sources s'éclaircit, devient lumineux, et que le rossignol sur la branche chante, module et roule son doux chant, il est en droit que je me mette à moi-même repolir le mien. Je vous dis ça plus ou moins une traduction au pied levé. Alors par ce beau temps de mars qui évoque la fin de l'hiver et le retour de la végétation du printemps, par toute la floraison des amandiers, des pruneliers, des ficaires, des primevères, des violettes, l'idée m'est venue de parler de quelque chose qui s'est passé à Montcuq il y a maintenant 780 ans, presque 800, lorsque pendant le carême de 1241-42, alors je vous expliquerai pourquoi il y a deux dates pour la même période, Pierre Célian, fils d'une famille de conseillers héréditaires des comtes de Toulouse, mais lui-même devenu dominicain et inquisiteur, est venu en Quercy pour infliger aux hérétiques du pays les pénitences justifiées selon le droit de l'Église et méritées par leurs opinions religieuses, qui en grec se disent des hérésies. C'est le sens du mot grec hérésie, le choix d'une opinion personnelle. Alors Pierre Célian donc est venu en Quercy, il est resté tout le temps du carême de 1241 à Montcuq. Cette année-là, ça allait du 10 février au 24 mars 1241, et le matin de Pâques, dimanche 25 mars, on se trouvait en 1242, l'année changeant dans la nuit du 24 au 25. Bon, on est donc une période qui correspond à peu près 780 ans avant nous, et Pierre Célian, Peyre Célia, dont la maison se trouve encore visible à Toulouse, sur la place dite du Parlement, ou place du Salin, elle est toujours debout. C'est là qu'est né l'ordre dominicain. Alors Pierre Célian vient entendre des hérétiques, c'est le mot qu'il emploie, a hérétiqui. Alors je vais essayer d'éviter d'employer trop de latin, d'autant que les dépositions qu'il entend ne sont pas en latin, vous le pensez bien, puisque ce sont tous des gens du pays. Presque 700 hérétiques en Quercy, entendus dans quelques villes clés principales, Montauban, Moissac, Gourdon, qui est très documenté, comme Montauban et Moissac, et ensuite Montcuq, puis Lozerte, Almont, Castelnau, quelques bricoles. On n'a pas grand-chose là-dessus. Par contre, sur Montcuq, on est assez bien renseigné. Alors, ces hérétiques qu'entend Pierre Célian portent pour les auteurs actuels le nom de cathares. Vous me direz, les cathares, Kejako. Je vais vous raconter un fait personnel qui me revient à la mémoire. Lorsque j'étais professeur d'histoire géo dans un lycée de l'Aude à Carcassonne, tout à fait par hasard, devant des élèves de terminale, le terminale S, tout à fait par hasard et sans y faire attention, j'emploie le mot dualisme. Et mon Dieu, monsieur, qu'est-ce que c'est que le dualisme ? Je dis, vous avez un exemple simple, le manichéisme. Et qu'est-ce que c'est que le manichéisme ? Et je dis, mais voyons, mais les cathares, ils me font, et qu'est-ce que c'est ? Or, moi qui fais beaucoup de vélo, je m'étais rendu compte d'une chose. À l'entrée de chaque village de l'Aude, j'avais en dessous du panneau indicateur la mention Aude, pays cathare. J'étais très étonné de voir que ces élèves de terminale ignoraient totalement ce qu'étaient les cathares et le catharisme. Je vous ai donc dit pourquoi en parler en Quercy, à partir des registres de Célian. Il faut savoir que lorsque j'emploie le mot hérétique, je vais un peu trop vite et un peu trop loin. Parce que pour Pierre Célian, comme pour tous ses collègues inquisiteurs du XIIIe siècle, il faut savoir que l'inquisition est fondée en 1233. Il n'y a pas d'inquisition avant. Hein. Mais les faits que rapportent les registres d'inquisition sont souvent antérieurs à la fois à la création de l'inquisition, à la fin de la croisade contre les albigeois et même à cette croisade elle-même. La croisade contre les albigeois, contre les cathares, si vous voulez, c'est 1209, 1229, 1230. La création de l'Inquisition, 1233. En 1235, Célian vient faire une tournée d'inspection en Quercy et il revient en 1241 pour infliger les pénitences. Entre les deux, les gens ont eu le temps de se convertir, si on peut dire. Alors, Pierre Célian connaît très bien le Quercy. Son père était viguier, c'est-à-dire juge, si vous voulez, des comptes de Toulouse, à Toulouse, vers 1180. Et lui, on sait qu'il est né vers 1160, donc il est mort en 1258. Il était quasiment centenaire, il avait 98 ans. Il est mort dominicain, du reste, comme il avait été toute sa vie. Alors, dans ses registres, il emploie deux termes différents. Pour ce que nous appelons les cathares, il emploie le terme hérétique. Et pour les idées, il emploie le terme de hérésie. Ce qu'il appelle hérétique était appelé par les gens du pays et se disaient eux-mêmes être des « boni homines » en latin, des bons hommes. On pourrait les traduire littéralement par « homme bon », en fait ça veut dire tout autre chose. Par contre, pour une autre catégorie de dissidents, il emploie le terme de « vaudois », alors « valdenses » en latin, « waldenses », et les gens du pays devaient du reste employer le terme « baldes » ou « balles ». Alors, les interrogatoires sont évidemment dans la langue que les gens pouvaient comprendre, en languedoc, en occitan. Ils sont ensuite traduits par les notaires, les scribes de l'Inquisition, en latin. Et Pierre Célian révise la traduction et donne son accord, sa signature à cette traduction. Il l'approuve ou il la désapprouve. Donc, si vous voulez, les registres nous rendent compte de dépositions qui sont en fait... D'abord, c'était très indirect, puisque l'inquisiteur lui-même posait les questions en occitan. Pour un Toulousain, ce n'était pas difficile. Il les traduisait ensuite pour les notaires en latin. Les gens répondaient en occitan, et c'était ensuite traduit en latin. Et en plus de ça, c'était recorrigé, revu. Donc on a, si vous voulez, c'est pas vraiment la déposition directe. Et chose dont on s'aperçoit, il y a en fait, pour tout le Quercy, Lot et Tarn-et-Garonne, il y a environ 680-700 dépositions. Il y en a 80 pour Montcuq, 86 même. Ce qui est quand même pas mal. C'est moins important que Gourdon, Montauban ou Moissac, mais enfin, c'est beaucoup plus important que Lozerte, Beaucaire, Belcaire ou Castelnau. Mais les dépositions de Montcuq, il faut les lire en connexion avec les dépositions de Beaucaire, Belcaire, si vous voulez, en face de Lozerte, Castelnau, Moissac, et même Montauban, parce que quelquefois, les gens de Montcuq, enfin, les faits de Montcuq sont cités. Le problème qui se pose pour le pays de Montcuq, c'est ce qui est intervenu en 1230 quand l'honneur châtelain, la seigneurie des comtes de Toulouse, qui était seigneur de Montcuq, a été divisée en deux par la Séoune. Je vous le disais dans une émission précédente à propos des noms de lieux. En 1230, la Séoune a divisé en deux les terres des comtes de Toulouse au sud du Lot. La partie au nord, jusqu'à Belaye, est passée aux évêques de Cahors. La partie au sud de la Séoune est restée aux comtes de Toulouse. Alors nous n'avons les dépositions que pour la partie au sud de la Séoune. Au nord de la Séoune, ça a disparu avec les archives de l'évêché de Cahors. Alors Pierre Célian, dont nous cite environ 86 hérétiques, enfin dissidents disons, donc une quarantaine de vaudois. Alors les vaudois, pour aller très simple, le Quercy a été la terre d'élection du valdéisme, beaucoup plus que le catharisme. La terre d'élection du catharisme, il faut le savoir, c'est l'Italie du Nord, c'est la plaine du Pô, c'est la Lombardie. Mais c'est aussi même les états du pape. Certains papes en but à des révolutions romaines, qui arrivaient très souvent au Moyen-Âge, ont dû se réfugier dans des cités, dans des villes, comme Spoleto, Viterbe, qui étaient aux mains des cathares. C'est l'Italie, la terre d'élection du catharisme. Le sud de la France l'a été, mais moins que ce que l'on croit. Il y a eu des cathares dans le bassin parisien, dans la vallée du Rhin. En fait, très curieusement, le catharisme est un phénomène qui se déploie surtout dans la partie occidentale de l'ancien empire romain, mais au nord des Pyrénées, entre les Pyrénées, les Alpes et le Rhin, et jusqu'à l'Italie du Nord. Et c'est là la terre d'élection du catharisme. Les Vaudois, par contre, c'est une hérésie, une dissidence un peu particulière, qui est apparue vers 1180 à Lyon, qui s'est développée tout au long de la vallée du Rhône, qui est très proche du catholicisme officiel. C'est une dissidence par volonté de retour à la pauvreté évangélique et à la simplicité de vie apostolique. Au début, les Vaudois obtiennent le soutien plénier des évêques, notamment d'abord de l'archevêque de Lyon, et puis comme ils se mêlent de prêcher, alors que ce ne sont que des laïcs, ils se mêlent de prêcher sur l'évangile et d'interpréter eux-mêmes l'évangile à leur façon, l'archevêque de Lyon prend mal la chose, il chasse les Vaudois qui se réfugient de diocèse en diocèse. C'est ce qu'on appelle l'extermination des hérétiques. L'extermination des hérétiques, ça ne veut pas dire le massacre des hérétiques, ça veut dire ça désigne le fait de pourchasser les hérétiques, de les chasser des frontières d'un pays en question. Les frontières, en latin, c'est les termini, les termes, si vous voulez. Et l'extermination, c'est le fait de chasser les hérétiques en dehors des frontières. Alors les évêques chassent les Vaudois de diocèse en diocèse, et finalement, c'est en Quercy que le valdéisme va particulièrement fleurir. Alors le valdéisme, si vous voulez, pour être simple, ce seraient les idées de saint François d'Assise, mais qui seraient devenues hérétiques. Voilà ce que c'est, c'est un peu ça. Bon, sans aller trop plus loin. Hein. Alors il existe encore des Vaudois de nos jours, certains ont rejoint la réforme protestante au XVIe siècle, d'autres ont rejoint l'église catholique, c'est les pauvres de Lyon ou les humiliés de Lyon, et d'autres, mais là ce sera pour une autre émission, ont conservé le valdéisme primitif en secret, à CAC, comme l'on dit, à CACO, et ils sont présents en pays de Montcuq. Et je n'en dirai pas plus, car je veux garder le secret sur ce qui m'a été révélé. Sachez quand même qu'on peut reconnaître les maisons vaudoises à certains signes extérieurs. Mais bon, je ne veux pas en dire plus. Alors, quant aux cathares, alors c'est le sujet d'aujourd'hui, ils sont environ une quarantaine, il y a environ 30 hommes, à Montcuq, je m'entends, 30 hommes, 10 femmes. La plupart des hommes, pas tous, la plupart sont nobles, mais pas tous, il y a quand même des non-nobles. Quant aux femmes, ce sont souvent des épouses de cathares, mais pas nécessairement. On s'aperçoit du reste une chose très curieuse, c'est que les épouses des hommes nobles cathares sont souvent vaudoises. Il arrive très souvent que dans une même famille, l'époux soit cathare, l'épouse vaudoise, les enfants peuvent être ou vaudois ou cathares. On a donc, si vous voulez, on s'aperçoit d'une très grande flexibilité, fluidité des opinions religieuses. En grec, je le répète, ça se traduit par le mot qui a donné le français « hérésie ». Donc une très grande fluidité des opinions religieuses, il n'y a pas de contraintes. Les milieux sociaux auxquels appartiennent les individus n'opèrent pas des contraintes déterminantes sur leur choix religieux, sur leur choix de pensée et de comportement. Alors les cathares de Montcuq, qu'est-ce que c'est? Outre cette grande liberté d'expression, ce sont les registres de Célian qui nous apprennent ce que c'est que le cathare, que il faudrait dire les cathares de Montcuq plutôt que le catharisme de Montcuq. Il y a certes un catharisme général que l'on connaît depuis pas si longtemps que ça, parce que les œuvres doctrinaires rédigées par des cathares eux-mêmes ou par les adversaires de ceux-ci, adversaires catholiques de ceux-ci, contre les cathares, ne sont vraiment connues que depuis le XXe siècle. La découverte des différents textes, elle date des années 1920, pas avant. Si bien que, jusqu'à ces années-là, on avait pour nous éclairer sur ce qu'étaient les doctrines des cathares que les dépositions enregistrées dans les registres de l'Inquisition. Et parmi ces dépositions, un trésor, selon le chanoine Albe, fameux historien du Quercy, membre de l'Académie des sciences, correspondant de l'Institut, grand chercheur, docteur en lettres, docteur en histoire. Et le chanoine Albe disait ceci, on avait, je vous dis, comme source vraiment sur les doctrines des cathares que les registres de l'Inquisition, et ils sont souvent très secs. Mais ceux sur le Quercy sont plus verbeux, exposent davantage ce qu'étaient les idées. Le chanoine Albe disait ceci, que sans les dépositions des cathares de Montcuq, nous ne saurions pas ce qu'a été le catharisme. Et il ajoutait en disant, de tous les hérétiques, de tous les cathares du Midi, ils ont été les plus avancés en hérésie. Et cette phrase du chanoine Albe m'est toujours restée en tête, de nos jours évidemment, avec les publications récentes, on en sait davantage. Alors il faut citer comme auteur, éditeur de textes fondamentaux, c'est évidemment René Nelly avec ses écritures cathares, ses différentes œuvres sur le catharisme, mais là c'est plutôt ses opinions qui ressortent. Michel Roquebert avec sa religion des cathares et de Jean Duvernois, évidemment deux registres d'inquisition qu'il a publiés. Alors, pour le XIVe siècle, en pays de Foix, je crois bien que c'est de lui, les registres de l'évêque de Foix, Jacques Fournier, qui sera plus tard pape sous le nom de Benoît XII, qui sont trois énormes tomes en latin, bourrés d'informations, c'est passionnant à lire, mais là on fait plus que de l'histoire des religions, on fait de la sociologie. Et surtout, de Jean Duvernois, publié aux éditions L'Hydre, dans les années 2002, l'Inquisition en Quercy, le registre des pénitences de Pierre Célian, 1241-1242, dont plusieurs dizaines de pages sur le cas Montcuq. Et alors là, on apprend plein de choses. Et je suis en train de l'ouvrir, de l'avoir sous les yeux. Avec cela, nous savons quand même pas mal de choses. Alors, il faut se rendre compte d'une chose, que évidemment je ne vais pas vous lire les registres de l'Inquisition, ce serait trop long, et puis ce ne serait pas forcément très intéressant. Nous avons, avec ces registres, des sources irremplaçables. Il faut savoir quand même que pour le XIIIe siècle à Montcuq, on a plus que ça. On a, alors là, dans ce registre sont cités, je vous dis, 86 déposants, je dis bien déposition, mais déposant. On a les noms, on a les prénoms, les noms, on a quelquefois même plus ou moins, on comprend ce qu'est le milieu social, l'activité, on voit si on a affaire à des nobles ou à des non-nobles. Pourquoi ? Parce que 3 ans après le passage de Pierre Célian à Montcuq, à la suite de ce qu'on appelle la paix de Lauris de 1243, bon, ce qui met un terme à la dernière tentative du comte de Toulouse Raymond VII de se libérer de la domination du roi de France. Après la paix de Lauris, le roi de France impose à Raymond VII de faire jurer à tous ses sujets fidèles et vassaux un serment de fidélité et de foi au profit de l'Église catholique et du roi de France. Et c'est le 1er avril, ça, je n'y peux rien, ce n'est pas un poisson d'avril, mais 1245, et comme j'ai le facsimilé obtenu des archives nationales, on lit bien en chiffres romains 5 et pas 3, le 1er avril 1245, que l'ensemble de l'universitas, c'est-à-dire la communauté instituée, institutionnelle, politique, sociale, économique, des habitants de Montcuq et de son pays, se rassemble pour prêter serment de fidélité. Et ce serment de fidélité, il est juré par tous les membres, tous les chefs de famille, et entre autres par 106 chefs de famille. Alors d'abord, 11 consuls, il n'y en a pas 12, contrairement à ce que voudra plus tard la charte des coutumes, il n'y a que 11 consuls, 6 nobles, 5 non-nobles, une bonne cinquantaine de chevaliers et nobles, et le texte latin nous dit « milites et nobiles », ce qui veut dire qu'on peut être chevalier sans être noble, noble sans être chevalier, on peut être les deux à la fois. Et ensuite, une bonne cinquantaine, ça me pose un problème énorme, de fores burgenses, ceux qui sont en dehors du bourg. Alors le bourg, c'est le bourg castral, fortifié. Et on retrouve dans cet acte de 1245 des noms que l'on rencontre dans le registre de l'Inquisition. On peut les coupler, on peut faire des recoupements, on peut reconstituer des familles, des clans, des groupes familiaux, alors des familles nucléaires, des familles élargies. On arrive même, avec quelques autres bribes qu'on a par ailleurs, à pouvoir évaluer la population de Montcuq dans les années 1240-1250. On s'aperçoit qu'il y avait environ, probablement, dans le bourg fortifié, à environ 350-400 habitants, peut-être moins. On s'aperçoit que, par des calculs un peu compliqués à faire, mais je vous passe là-dessus, en comparant avec l'état de la démographie au XIXe siècle et au XXe, la répartition de la population dans l'espace, les dynamiques de population, les flux de population, on a quelques chiffres pour le XVIIe siècle, sous Louis XIV et au XVIIIe, on peut penser qu'il y avait au sud de la Séoune, dans la moitié sud de l'ancienne seigneurie castrale des comtes de Toulouse centrée sur Montcuq. Donc, au sud de la Séoune, il devait y avoir environ 1600 à 2000 habitants, de plus de 14 ans. Parce qu'à l'époque, les moins de 14 ans, on ne les compte pas. Ils risquent de mourir jeunes, donc on n'y fait pas attention. Et on s'aperçoit, alors là, l'effondrement pour tous les partisans du catharisme et de l'indépendance de l'Occitanie, les deux allant de pair, vous comprenez bien. Le catharisme, au fond, de nos jours, l'idéologie cathare, c'est le justificatif idéologique de l'occitanité, si vous voulez, de l'autonomisme occitan. Tous les nationalismes ont besoin d'une idéologie. Et les régionalismes sont des nationalismes au petit pied. Alors, évidemment, à Montcuq, c'est l'effondrement. Parce que quand vous faites le rapport, 80 hérétiques, tout bord confondu à Montcuq, sur 1600 habitants dans le pays, ça fait 5%. Et 40 cathares sur 1600 habitants, ça fait 2,5%. Alors ça, c'est des chiffres que Jean-Louis Biget, grand spécialiste de la chose, du catharisme, c'est vraiment le grand maître actuel en étude du catharisme et des hérésies médiévales en France de nos jours, c'est Jean-Louis Biget, qui est originaire d'Albi. Et Jean-Louis Biget a retrouvé la même proportion partout dans les régions cathares, dans les régions où il y a eu des cathares. Alors, qu'est-ce que c'est que ces régions où il y a eu des cathares ? Alors là, je vais faire un petit retour en arrière, je voulais vous le dire, mais j'y pensais plus. On revient aux origines même du catharisme. C'est un peu décousu, c'est pas grave, je m'exprime comme ça, vous inquiétez pas, je faisais hurler mes profs d'histoire au Mirail. Ils me disaient, le jour où vous saurez faire un plan, monsieur Nardou, vous aurez l'agrégation, les doigts dans le nez, à l'écrit comme à l'oral. Bon, mais je ne sais pas faire de plan. Bon, enfin bref, pour en revenir un peu aux origines, le catharisme, enfin, que l'on pense être aux origines du catharisme, apparaît, non pas dans nos régions, mais à Orléans, vers 980-1016, dans le milieu des chanoines de la cathédrale, qui sont aussi les conseillers, confesseurs, aumôniers, directeurs de conscience, du roi de France Robert le Pieux et de son épouse Constance, fille du comte de Provence. C'est là qu'apparaît d'abord une hérésie, qui, d'après ce que nous en disent les chroniqueurs du temps, pourrait bien être aux origines du catharisme. Parce qu'ils ne veulent pas se brûler, alors ils en parlent avec des pincettes. Pour arriver à savoir ce qu'était l'hérésie en question, il faut vraiment les cuisiner longtemps. Bon, les chanoines sont brûlés vifs, évidemment, comme il se doit. La condamnation à être brûlés vifs des hérétiques, surtout, et vous allez comprendre pourquoi je dis cathare, enfin, il faudrait dire manichéen, elle remonte à un empereur romain de 285 à 305, Dioclétien, grand restaurateur de l'unité de l'Empire romain, qui est le premier à avoir édicté des mesures contre les manichéens. Or, c'est justement là que je voulais en venir. Parce que, et alors Dioclétien établit la peine du feu contre les manichéens. Or, quelques années après la fin, enfin, de l'hérésie d'Orléans, vers 1016, vers 1020, en Périgord, un moine de Cadouin, alors Cadouin c'est connu parce que c'est un monastère qui prétendait avoir conservé un des sanctuaires qui ont enveloppé le corps du Christ dans le tombeau. Un moine de Cadouin envoie une lettre à tous les évêques de la région en leur disant, la phrase est superbe, ça évoque la blanche robe d'église de Raoul Glabert, il leur dit ceci, « Une nouvelle hérésie est née dans le monde. » Et il développe ce qu'est cette hérésie. Les évêques de la région, 10 ans après, vers 1030, se réunissent à Limoges pour parler de toute autre chose, à la demande des moines de Saint-Martial de Limoges, notamment de André de Chabannes, qui est bien connu. Ils tentent de faire reconnaître Saint-Martial, qui a fondé l'église de Cahors vers 250, qui venait de Rome par Toulouse, qui était un diacre du pape des années 250, envoyé par celui-ci pour évangéliser la Gaule avec 7 autres apôtres bien connus, dont Saint-Cernin à Toulouse. Et vers 250, Saint-Martial fonde l'église de Limoges. Et il va le faire reconnaître, les évêques de la région au XIe siècle, vers 1030, veulent faire reconnaître Saint-Martial comme étant un égal des apôtres. Les évêques qui se réunissent à Limoges, c'est pas n'importe quoi, ça nous dessine la carte de ce qui sera plus tard le catharisme. Alors là, c'est là que je vais achever d'enfoncer le clou, après la faiblesse que représentait le pourcentage de cathares dans nos régions. C'est que les évêques qui se réunissent à Limoges, et qui vont définir cette nouvelle hérésie du reste, ce sont ceux Périgueux, Limoges évidemment, Agen, Cahors, Rodez. C'est quand même pas la Méditerranée des Oliviers, hein. C'est pas la Méditerranée pour les touristes, c'est pas le pays de l'Aude. S'y ajoutent Albi, on comprend un peu, les Albigeois, Toulouse et Carcassonne, Rennes-le-Château, Carcassonne-Razès. Et les évêques se réunissent, ils appartiennent à 3 régions épiscopales différentes. Donc c'est un synode interprovincial. Il n'y a pas tous les évêques de toutes les 3 régions, uniquement ceux concernés par le problème. Ce n'est pas, à proprement parler, l'hérésie, c'est la fameuse iso-apostolicité de Saint-Martial. Mais, alors que le synode est sur le point de se dissoudre et de se disperser, l'évêque de Cahors se dresse, il est intéressant, je vous dirai pourquoi, tout à l'heure. Il se dresse et il pose une question à ses collègues, « Mes chers frères, fratres, mei et compagnie, en épiscopat, l'humble serviteur de Dieu que je suis, ça, on est toujours très humble, on n'est rien du tout, etc. Vos seigneuries, etc. Bon. » Et il leur soumet un problème. Dans le cimetière de l'église de Pradine, pas n'importe quoi, et d'une église de Cahors. Pradine, c'est la première église fondée par Saint-Martial en 250 en Quercy. La terre du cimetière rejette les corps de gens qui ont été inhumés alors qu'ils étaient excommuniés. Et ces excommuniés sont des chevaliers. Ce ne sont pas encore des nobles. On est à une époque où encore... la définition de ce qui sera plus tard la noblesse classique est en voie de formation. Ce sont donc des hommes d'armes qui sont excommuniés et dont le corps est rejeté par la terre du cimetière où on les a inhumés. L'évêque de Toulouse a constaté la même chose dans le cimetière de la Dalbade, dans le centre du Vieux-Toulouse, à côté de la rue des Carmes, vers la place des Carmes. Et l'évêque demande à ses confrères « Que faut-il faire ? » Alors, on débat d'abord pour quelles raisons ont-ils été excommuniés. Ben, ils ont été excommuniés pour hérésie. Quelle était cette hérésie? C'est là qu'on en vient au problème. Les évêques discutent entre eux de ce qu'ont été les opinions des chevaliers en question. Et ils définissent cette nouvelle hérésie née dans le monde, au sujet de laquelle ils avaient alerté le moine de Cadouin, ils la définissent comme étant une espèce de combinaison entre elles de 2 vieilles hérésies classiques bien connues et qui sont le fondement dans l'esprit des gens du Moyen-Âge de toutes les autres hérésies. L'arianisme et le manichéisme. Alors, vous me direz, il faut définir maintenant ce qu'est l'arianisme et le manichéisme. C'est ce que nous allons faire. La la la.
décèle jusqu'au latéro. Monstre d'amour, bye bye.
Alors donc, quelles sont ces hérésies en question, l'arianisme et le manichéisme, qui seraient, pour les évêques réunis à Limoges en 1031, aux origines de la nouvelle hérésie, qu'ils n'appellent pas encore cathares? Là aussi, c'est un autre problème. Alors, bon, pour aller simple, disons que l'arianisme est apparu à Alexandrie d'Égypte, vers 300 de notre ère, donc sous le règne du fameux Dioclétien, dans l'église d'Alexandrie. C'est l'opinion, c'est l'interprétation, c'est la vision de ce qu'on appelle oh là là, l'ontologie divine, l'être de Dieu. Comment un prêtre d'Alexandrie, sur le port occidental de la ville, le bassin de la Baoukalis, l'église de la Baoukalis, il était en charge d'une église sur le bassin, une église qui était fréquentée surtout par des dockers, des commerçants, des artisans. Et à ces gens très simples, pour leur faire comprendre ce qu'est Dieu, en plusieurs personnes, en trois personnes, il emploie des expressions qui font que, si vous voulez, il reproduit ce qu'était la structure du pouvoir impérial romain universel en son temps, c'est-à-dire au sommet un empereur tout-puissant et en dessous de futurs empereurs qui seront ses successeurs éventuels et qui ont moins de pouvoir que le premier. Ce sont des sous-empereurs, ce sont des co-empereurs et des sous-empereurs, et qui sont investis par l'empereur principal. Au fond, c'est ça. L'arianisme, c'est une transposition dans le domaine de la théologie de ce qu'est la connaissance qu'on pouvait avoir de la structure du pouvoir central impérial romain vers 300 de notre ère. Alors, pour Arius, un seul vrai Dieu au sommet de tout, le Dieu de l'Ancien Testament, il y avait Elohim, qui est pleinement Dieu et qui est seul Dieu. Et ce Dieu, pour créer le monde, dans l'éternité, en dehors de la matière, de l'espace et du temps, mais pour Arius, c'est un temps infini, en fait, dans un temps infini, ce Dieu, pour créer le monde, a besoin de se fabriquer un instrument. Et il crée un instrument qui est le Verbe divin. Le Verbe divin est de nature divine, il est d'origine divine, mais c'est un Dieu créé, un Dieu inférieur au Père créateur. Et ce Dieu créé, pour Arius, il s'incarne en la personne de Jésus de Nazareth, mais qui est un homme dans lequel le Verbe divin s'est incarné. Alors, Arius ne conteste pas l'incarnation du Verbe dans Jésus de Nazareth, mais il fait du Verbe divin incarné en Jésus de Nazareth un espèce de petit Dieu au rabais, un Dieu secondaire, un Dieu inférieur. Le Saint-Esprit n'en parle pas. On commencera de définir ce qu'est le Saint-Esprit à la fin du IVe siècle, vers 380. Bam. Tout au long du IVe siècle, on va discuter. Mais les notions sont déjà en formation dans les écrits des auteurs chrétiens depuis le second siècle, des saints de notre ère, à travers tous les écrits, il est question du Saint-Esprit, du Fils, du Père et compagnie, mais ça reste très flou. C'est ça l'arianisme. C'est un christianisme qui, au IVe siècle, a tendance à l'emporter sur ce qui va devenir le catholicisme, si vous voulez, pour parler en termes très simples. Un des grands adversaires de l'arianisme, c'est important à Montcuq, ce sera Saint-Hilaire de Poitiers, saint patron de l'église majeure de Montcuq, de l'église médiévale. Église bâtie entre 1250 et 1270, sous le règne du successeur et gendre de Raymond VII. Raymond VII meurt en 1249, il n'a qu'une fille légitime qui a épousé le frère de Saint-Louis. Et c'est sous le règne, comme comte de Toulouse et Quercy, d'Alphonse de Poitiers, frère de Saint-Louis et de Jeanne de Toulouse, qu'est bâti Saint-Hilaire. Et Alphonse de Poitiers, comte de Poitiers, choisit le saint patron de sa ville, Saint-Hilaire, comme nouveau patron de Montcuq, parce que Saint-Hilaire, c'est le grand adversaire de l'arianisme. Et on voit pendant tout le Moyen-Âge, on verra dans l'arianisme l'ancêtre de toutes les hérésies. C'est un peu forcé la chose. Tout comme on prétendra voir dans le judaïsme, dans les différentes écoles orthodoxes du judaïsme, les sept écoles orthodoxes, on prétendra y voir les sources des sept courants hérétiques principaux du catholicisme médiéval, du christianisme médiéval, faudrait-il dire. Bon. Alors l'autre hérésie dans laquelle les évêques réunis à Limoges, je crois, retrouver les origines de la nouvelle hérésie dans le monde, c'est le manichéisme. Alors ça, le manichéisme, c'est plus qu'une hérésie, c'est une religion indépendante, tout à fait différente, apparue en Irak actuel vers 200 de notre ère. Le prophète fondateur est un certain Manès qui appartient au milieu de la noblesse, de l'aristocratie de l'Empire perse, parce que l'Irak fait partie de l'Empire perse, de l'Empire iranien, si vous voulez. Mais aristocratie de langue grecque, de culture grecque, très imprégnée de christianisme et de toutes sortes d'autres religions, bouddhisme, zoroastrisme, mandéisme, sabéisme et compagnie. Et Manès va faire de sa doctrine une nouvelle religion universelle, ce qui se caractérise par l'opposition de deux principes, le principe du bien et le principe du mal, lesquels sont mélangés dans le monde et en lutte constante les uns contre les autres jusqu'au triomphe final du bien sur le mal. C'est ce que l'on retrouve dans l'islam chiite iranien contemporain. Ça n'est imbibé de manichéisme. Si vous lisez Henri Corbin, La philosophie de l'islam, qui est surtout consacrée aux écoles ésotériques, métaphysiques, philosophiques, théologiques de l'islam iranien, de l'islam chiite, vous verrez à quel point celui-ci doit de choses au manichéisme. Alors le manichéisme s'est répandu dans l'Empire romain, il a bien failli surclasser le christianisme. Saint Augustin a été manichéen, et c'est par saint Augustin qui a combattu le manichéisme ensuite que les évêques, que les chrétiens du Moyen-Âge connaissaient bien le manichéisme. Ce qui me fait dire que si les évêques réunis à Limoges ont défini cette hérésie comme étant de l'arianisme, Eusèbe de Césarée, le conseiller de Constantin, était lui-même arien. Donc on pouvait savoir ce qu'était l'arianisme. Si donc les évêques ont défini cette nouvelle hérésie comme étant l'arianisme, et surtout le manichéisme qu'il connaissait encore mieux par saint Augustin, on peut penser qu'il se trompait pas. Alors, parmi ces évêques, il y a celui de Cahors, je vous l'ai dit. C'est un évêque de fils d'une famille de la noblesse du Haut-Quercy. L'évêque de 990, un certain Bernard, est un réformateur. Il veut diffuser dans l'Église et dans le peuple chrétien des valeurs, des comportements, des valeurs morales, des modes de vie qui sont ceux du monde monacal, du monde monastique, des moines. Au fond, ce Bernard de Cahors, évêque de Cahors, de 990 à 1010-1020, il veut faire du peuple chrétien un peuple de moines. Oh, c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Parce que son successeur, lui, sera beaucoup moins réformateur. Et son successeur va avoir une attitude assez curieuse. Il va concéder à des familles nobles, des familles de puissants, du Quercy, et notamment du Quercy blanc, et notamment du pays de Montcuq, le droit de percevoir les dîmes. Et parmi ces familles, il y en a deux, celle des Peines de Saint-Géniès, celle des Narses du Pêche de Lauture, entre Montcuq et Rouillac. Alors, pour en revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est de voir que au XIe siècle, ce qui se développe dans ce qu'on appelle le courant, le mouvement de la réforme grégorienne de l'Église, qui vise à libérer l'Église de l'emprise des laïcs, des princes de ce monde, des puissants, on voit se développer l'idée que le monachisme, la vie monastique est l'idéal que tout chrétien devrait essayer de cultiver. Il faut le retenir parce que parmi les premières obligations qui s'imposent à un moine, il y a la chasteté, il y a même la virginité. Et on va retrouver ça dans le catharisme. Et l'autre obligation qui s'impose, c'est la pauvreté, le fait de ne rien posséder. Si la communauté peut posséder des biens, chaque membre de la communauté ne possède rien. C'est un communisme primitif et achevé. L'autre trait, c'est qu'aucun membre de la communauté n'a de ce qu'on appelle de personnalité juridique. Les moines sont frappés de ce qu'on appelle la mort civile. C'est-à-dire que tous les biens qu'ils ont en entrant au monastère ou qu'on leur a donnés entrent dans la masse des biens du monastère et désormais ils ne pourront plus agir en justice. Ils ne pourront plus intenter des procès. C'est l'abbé du monastère qui agit pour eux, sous la protection de l'évêque. C'est pour ça que les évêques sont contrôleurs, protecteurs des monastères. Et comme ils ne peuvent pas agir en justice, selon la procédure de l'époque, ni passer de contrat, ils ne peuvent pas prêter de serment. Et c'est ce qu'on va retrouver, qui forme le cœur des dépositions des hérétiques de Montcuq au XIIIe siècle. Et parmi ceux-ci, vous en avez deux, on pourrait dire trois, qui sont importants. C'est, je vais le prononcer à l'occitane, Guilien Bernat de Narses, car on doit prononcer Narses, c'est le nom du faubourg de Montcuq au sud-ouest du village, en contrebas de la maison de retraite. Guilien Bernat de Narses, la famille est originaire du Pêche de Lauture entre Montcuq et Rouillac. Il y avait là un petit château qui a disparu. L'autre déposition importante, c'est celle de Pierre Peyre de Peine, de la butte de Peine, du château de Peine à Saint-Géniès. Alors à Saint-Géniès, il y a deux familles nobles, deux familles seigneuriales. Les Peines, qui sont les plus anciens, ils sont là depuis le Xe siècle, les années 900, comme les Narses, du reste, c'est pareil. Et arrive vers 1100 une autre famille noble qui va s'installer à pas loin du château de Peine, à Poujal, qu'on appelle les Saint-Géniès, qui sont des cadets des sires de Castelnau, de Castelnau-Mondratier. Bon. Alors, ces deux cathares de Montcuq, l'un d'eux, du moins, c'est pas Pierre de Peine ne le cite pas, mais Guilien Bernat de Narses cite comme chef, bon, pour dire les choses plus simplement, grand instructeur, grand doctrinaire, on pourrait dire le chef. Mais il semblerait que ce soit le personnage qui est introduit, ce qu'on appelle le catharisme à Montcuq, et qu'il est diffusé. Alors ce personnage porte un nom assez ennuyeux pour l'occitaniste que je suis. Il s'appelle en latin Dominus Guilliamassa. En bon occitan, ça donnerait N. Guilliamasso. Alors N, ça veut dire noble maître, comme le latin, ou seigneur, comme le latin Dominus. Et Guilliamasso, c'est un nom à problème parce que c'est un augmentatif péjoratif féminin formé sur le nom de Guilliamo, qui est la forme féminine de Guilien. Alors, on a un personnage qui est le chef des cathares de Montcuq et de tout le pays entre Cahors et Moissac, d'après les registres d'Inquisition. On le voit, c'est lui qui dirige tout. Et ce personnage porte un titre masculin, Dominus, N, en occitan. Il ne faut pas prononcer An. Vous avez pas mal de noms de lieux dits autour de Toulouse qui s'appellent en quelque chose. En fait, c'est en quelque chose. Le domaine, le mas du noble maître, du seigneur, un tel. Donc, il porte un titre masculin qui est suivi d'un prénom apparemment féminin. Alors, si on ne sait pas que chez les cathares, les parfaites, si vous voulez, l'équivalent au féminin de ce que sont les parfaits cathares, c'est une expression que l'Inquisition a inventée pour désigner les cathares, les hérétiques achevés. Perfectus, ça veut dire achevé, accompli. Eux-mêmes s'appelaient bonus, au pluriel, boni homines, bonus homo au singulier. Donc c'est une femme, apparemment, qui est ce qu'on appelle une parfaite, vulgairement. Or, elle porte un titre masculin. Et on sait que, effectivement, chez les cathares, on donnait le titre de N, de Dominus en latin, aux femmes qui étaient les égales en doctrine, en approfondissement de la doctrine, ce qu'étaient les boni homines, les bons hommes. Donc ce serait peut-être une femme qui serait le chef de l'introductrice et la grande responsable de la diffusion du catharisme en pays de Montcuq et en Quercy. Alors, on pourra en dire davantage à son sujet du reste, parce que, bon, elle pose un autre problème, c'est qu'elle est assistée par une gouvernante cuisinière qui s'appelle Alaïsa Issio, ce qui est une forme d'Alice, laquelle est plutôt vaudoise. Et c'est par la déposition d'Alaïsa Issio que nous savons plein de choses sur Guilliamassa, qui avait une maison à Montcuq, ou peut-être dans les environs, parce qu'il y a deux lieux dits aux environs de Montcuq qui se réfèrent à un bonus homo, un bonhomme. C'est au-dessus de Couvignac, l'albugo del bonhomme, c'est-à-dire le refuge fortifié du bonhomme. À Narcès, précisément, sur l'ancienne propriété Renato, au lieu dit l'Artigue, le Tuquette. Le nom ancien était la Motte del Bonhomme, la motte fortifiée du bonhomme. Et vous avez à côté à Saint-Géniès, en face de Brocard, de l'autre côté de la vallée du Tartuguier, un lieu dit le roc d'En Guilienne, le roc du seigneur Guilienne. Alors cette Guilliamasso, Guilliamo, de son prénom féminin à l'état réduit, à l'état neutre, aurait peut-être été la fille d'un certain Guilienne, ou l'épouse d'un Guilienne, moi je dirais plutôt la fille. Et comme elle n'était pas très avenante, de physique ni de caractère, on l'avait surnommée Guilliamasso, la grosse, méchante, mauvaise Guillaume. C'est ce que ça veut dire, Guilliamasso, c'est la mauvaise Guillaume. Guillaume étant une forme féminine du prénom, en français comme en occitan, Guilliamo. Alors cette Guilliamasso donc aurait été la grande responsable. C'est Guilienne Bernat de Narcès qui nous en parle. Pierre de Peine n'en parle pas, alors qu'il a été lui-même un grand doctrinaire. Et on sait par les registres d'inquisition sur Lozerte Beaucaire, Belcaire, sur Moissac, sur même peut-être Castelnau, qu'effectivement, des gens de ces régions reconnaissaient avoir reçu des livres, des opuscules, des cahiers, contenant les idées des hérétiques, comme dit Célian, c'est-à-dire des cathares, et qui étaient diffusées à partir de Montcuq, par Guilliamasso. Guilliamasso était vraiment au centre de tout le réseau qui maillait le Quercy Blanc, le pays des vallées, entre Cahors et Moissac, au point de vue de la diffusion de l'hérésie. Bien, nous allons nous quitter. L'émission n'est pas terminée, le sujet étant d'une telle richesse que l'on pourrait en parler longtemps. Nous nous reverrons donc la semaine prochaine. Donc à la prochaine fois, et gardez-vous bien, toujours dans ce beau temps de mars et de Pâques, qui est particulièrement propice à la réflexion et sur le monde cathare. Vous rappelant qu'au château de Peine à Saint-Géniès règne, lorsque le soleil descend vers l'horizon de la vallée du Tartuguier, une immense paix qui évoque les temps cathares. Au revoir.
Quan la boia vende l'ora, planto sana gallado, planto sana gallado. Trovo sa feno al pe del foc. Trovo sa feno al pe del foc. Tutto desconsolato. Desconsolado se ne smalauto di gaso se ne smalauto di gaso te farà men putate. Canzone morto re mutter. al post priu la cava. Mos pesa la pared, mientras mos pesa la pared. Lo capios la canelo, ay, yo. Lo capios la canelo. Los labios que pasarán, los labios que pasarán, prendan taiga sangrada. Alce la mesa scapas.